Voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des aînés. Il y a en ce moment comme un retour, une sorte de revival sur Internet où on montre de plus en plus des vieux qui deviennent tendance. Des ancêtres filmés par les jeunes générations et qui dialoguent entre deux mondes, entre deux siècles. Julia Maury, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste, vous avez tout juste 30 ans et vous êtes à l'initiative du projet Oldyssée avec votre partenaire Clément Boxbeld. Vous êtes venu d'ailleurs à ce micro avant de partir faire le tour du monde il y a à peu près 2 ans. Oldyssée, ce sont des portraits filmés, des vidéos postées sur YouTube. Et puis, ça a donné lieu aussi à un livre, Oldyssée, un tour du monde de la vieillesse. Vous êtes allé dans 12 pays, c'est bien ça, à la rencontre des vieux pour voir comment on vieillit. Alors, il y a des mamies footballeuses en Afrique du Sud, il y a des grands-mères sénégalaises qui luttent contre l'excision et les mariages forcés, des retraités belges qui aident les jeunes migrants. Il y a Betty, cette américaine de 86 ans, la plus vieille ranger des États-Unis, et beaucoup d'autres, des maisons de retraite aussi incroyables au Japon. Vous allez nous en parler. Avec nous également Jonas Parienté, bonjour.
Bonjour.
Jonas Parienté, vous êtes documentariste producteur, un peu plus âgé, 37 ans. Vous avez créé Grandmas Project. C'est une web-série pour laquelle des réalisateurs filment leur grand-mère au fourneau. Toujours les grand-mères, pas de grand-père?
Pour l'instant, toujours les grand-mères.
D'accord. On sera aussi en ligne avec Jules Mamert Nguessan, qui est fondateur, il a 70 ans hein, lui-même, et il est fondateur de Senior Africa, qui met en relation des entreprises et des seniors à la retraite pour qu'ils puissent former des jeunes en entreprise sur des compétences très spécifiques. Alors, pourquoi s'intéresser aux vieux quand tout s'accélère et que soi-même on est jeune? Comment valoriser le savoir-faire des aînés dans un monde dominé par l'incertitude? Certitude. Eh bien, les voisins, les voisines, vous avez la parole. Dites-nous ce qui vous intéresse dans les savoirs de vos vieux. Si vous êtes beaucoup plus âgé, bien sûr, vous avez aussi la parole. Je précise que dans pas mal de cultures, le mot vieux n'est pas péjoratif. Hein. Vous confirmez, Julia Maury?
Oui, dans certaines cultures, et je pense notamment au Sénégal, c'est où on s'est rendu, c'est une chance d'être vieux, et c'est les gens ont presque hâte en fait d'atteindre ce statut social. C'est un vrai rôle social où enfin bah, notre parole est écoutée, a du poids, et où on va pouvoir transmettre des choses, avoir quelque chose à dire. Quoi.
Dans 30 ans, plus de 2 milliards d'habitants auront 60 ans et plus selon l'OMS. C'est le moment de nous appeler 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Bonjour, bonjour. Alfred Rony depuis Libreville. Les seniors, il y en a deux types. Il y a ceux-là qui ont eu de mauvaises expériences dans la vie, du coup ils sont très aigris, pas très joyeux et tout. Et il y a le second, il y a d'autres seniors, ils sont extraordinaires. Je les fréquente beaucoup parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont vécu une belle vie, et même s'ils sont tombés, c'est-à-dire ils sont relevés. Bref, ils sont surtout plein de conseils, plein d'inspiration, ils ont toujours plein d'histoires à raconter. J'ai beaucoup d'amis qui sont des seniors, qui ont passé l'âge de 60 ans et tout. J'apprends beaucoup en fait, ils ont beaucoup à raconter. Ils sont tous différents les uns des autres, ils ont leur façon de voir le monde. Et selon les expériences qu'ils ont vécues, par exemple quelqu'un qui a vécu un divorce, il va te dire « fais attention aux femmes, n'y mets pas trop le cœur, concentre-toi sur ton travail et tout ». Et quelqu'un qui a eu une belle relation, qui a rencontré sa femme depuis l'âge de 17 ans, il dira « si tu as trouvé une, accroche-toi, ça bien ». Bref, les seniors sont extraordinaires. Ils sont pleins d'expérience et généralement, on ne s'ennuie pas avec eux. Bon, moi, personnellement, je ne m'ennuie pas avec eux.
Vous êtes d'accord avec ça, Jonas Parienté? On ne s'ennuie pas, sauf quand vous rencontrez des seniors aigris.
Non, mais après, même les seniors aigris sont intéressants, non? Enfin, en tout cas, c'est... Comment dire? Par exemple, désolé de parler directement de mon projet, mais...
Êtes là pour ça, Jonas.
En tout cas, toujours est-il que les grands-mères de la série... sont pas que des grand-mères un peu clichés qui donnent à manger, qui sont hyper souriantes et hyper mignonnes. Il y en a aussi quelques-unes qui sont un peu plus amères, un peu plus revêches.
Ouais, un peu plus emmerdeuses, comme on dirait.
Hein. Ouais, ou emmerdeuses.
Mais qui font bien la cuisine.
Pas toutes non plus, mais je trouve que c'est des personnages intéressants aussi. Et puis c'est, comment dire, il y a de l'aigreur, mais il n'y a pas que ça en fait. On peut un peu gratter et voir ce qu'il y a derrière.
Alors qu'est-ce que les vieux ont à nous transmettre? Aussi des réponses de nos auditeurs. Judy Kael, qui est étudiante tchadien à Bangui en République centrafricaine, il nous dit, chez moi, un vieux est toujours un arbre sur lequel viennent se reposer les adolescents lorsqu'il s'agit de problèmes de famille. Les vieux sont consultés et ont vite fait de trouver la solution. Car, comme dit un proverbe, ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Moi, je ne connaissais pas ce proverbe. Vous le connaissiez, Julia ?
Non, je ne le connaissais pas. Par contre, je connaissais...
C'est bien vu.
Oui, c'est très beau. Je connaissais le proverbe africain, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Amadou Ankateba.
Voilà, qu'on voit partout dans les salles de classe au Sénégal. Et je suis d'accord avec ça. Ça m'a vraiment frappée au Sénégal quand on y était justement, où on a vu des grand-mères qui sont consultées par les jeunes filles. Les jeunes filles, dès qu'elles ont un problème de cœur, un problème qui concerne l'adolescence, elles vont consulter les grand-mères et elles nous disaient je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma grand-mère qu'avec ma mère. Donc,
Notamment d'ailleurs pour parler de couple, de sexualité, d'histoire d'amour, etc. Moustapha est à Niamey, au Niger. Durant les vacances au village, nous dit Moustapha, on passait des moments merveilleux avec les anciens. Ils nous racontaient leurs histoires, nous donnaient des conseils et surtout leur vision du devenir de chacun d'entre nous, mais aussi leur vision de l'avenir du monde. Ça revient beaucoup dans les témoignages qu'on reçoit. Les vieux ont parfois la vue qui baisse, mais ont aussi une manière de voir les choses extra lucide, peut-être. Ça vous a frappé les uns et les autres ou pas?
Ouais, ça m'a frappé et en même temps, je trouve qu'on a souvent cette vision que les personnes âgées, elles ont une vision qui est figée dans le passé, qu'elles se mobilisent pas trop non plus pour l'avenir. Et nous, les projets qu'on a vus, on a été marqués par des personnes âgées qui justement ont fait un peu du futur leur bataille du présent.
On va y revenir bien sûr. Et pour vous, Jonas Parienté, ce don de voir, d'ubiquité, de percevoir, de comprendre l'autre.
Oui, mais je pense qu'en fait, c'est une question d'expérience et de sagesse. Effectivement, c'est quelque chose qu'on minimise un petit peu dans notre société occidentale. Mais effectivement, les personnes âgées ont toute cette amas de choses vécues, d'expériences vues aussi autour d'eux, et qui leur donnent certainement plus d'acuité. Ouais.
Emmanuel est à Abidjan. Chez nous, certains jeunes ont peur d'approcher les vieillards, car selon eux, ils ont un lien avec la sorcellerie, ce qui n'est pas vrai. Ma grand-mère avait un don de guérison, elle connaissait des plantes secrètes qui soignaient plusieurs maladies. Malheureusement, elle est partie avec ses secrets. Et puis, il y a le message de Johan à Port-au-Prince en Haïti, assez incroyable. Il nous dit qu'il travaille sur un projet de réfrigération en compagnie d'une personne de 91 ans. Il s'appelle Ernest, c'est un vrai joyau, nous dit Johan. Il se souvient de tout quand on lui parle et quand on évoque la mort, il dit qu'il est un futuriste et qu'il n'a pas eu le temps d'y penser jusqu'à maintenant. Il nous donne des conseils sur la façon de positiver. Ça, il faut que vous ayez le rencontrer, cet homme-là, Ernest, 91 ans, qui travaille dans la réfrigération.
Vous nous donnerez son contact, on ira avec notre caméra.
On va lui demander à Johan. Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce que les aînés, très aînés, ont à nous transmettre ?
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Lucien nous appelle de Bukavu, en République démocratique du Congo. Bonjour Lucien, vous avez 27 ans. Vous êtes donc celui qui reçoit la bonne parole des aînés. On pourrait dire ça comme ça, Lucien ?
Ah oui, bonjour Emmanuel, bonjour les voisines et les voisins qui nous suivent en ce moment.
Vous, c'est votre grand-père qui vous inspire ?
Mon grand-père, il m'inspire tellement, surtout par sa confiance en lui. Je crois qu'il n'est pas parti à l'école, mais il nous dit qu'il est plus intelligent que certains instruits. Mmh. Il a 23 ans en 7 ans, mais il le dote des femmes.
83 ans, vous vouliez dire, hein ?
Oui, 83 ans,
c'est ça.
Mais il le dote des femmes. Mmh. Il nous montre qu'une fille non dotée ne peut pas fouler ses pieds dans sa parcelle. Mmh. Et réellement, ils sont riches que nous. Il nous incite à entreprendre dans l'agriculture et l'élevage. afin d'avoir une autonomie future. Quand vous voyez comme mon grand-père qui fait avoir des parcelles à distribuer à tous ses petits-fils.
Ah oui, donc il a pas mal de terres. Mais vous avez dit au standard, Lucien, que les vieux, parfois, vous reprochent, vous les jeunes, d'avoir abandonné, perdu une part de votre identité. Qu'est-ce que vous voulez dire, Lucien ?
Ah oui, par là, il nous dit que nous sommes devenus acculturés. Mmh. Nous n'avons plus les pieds sur terre. Nous avions perdu nos repères. Et nous avions été victimes de ce que je peux appeler greffage culturel, qui n'a pas du tout marché, qui a avorté.
Et c'est quoi ce greffage culturel ? C'est l'Occident derrière ?
Ah, greffage culturel, bon, je peux pas parler seulement de l'Occident. Étant donné que nous avons plusieurs tribus et ethnicités chez nous, il y a ceux qui copient de mauvaises manières ou de mauvaises habitudes qui ne sont pas honorées dans leur culture ou tribu. Et c'est pourquoi ils nous disent que nous avions abandonné notre identité.
Ouais. Ces reproches vous donnent à réfléchir, Lucien, vous et vos amis ?
Tellement, parce que presque sur tous les plans, nous remarquons que ce sont nos grands-parents qui ont réussi par rapport à nous, je peux le dire. Même s'ils croient que je suis encore jeune, bon, mais permettez que je le dise.
Merci beaucoup Lucien de nous avoir appelé de Bukavu. Alors, en même temps, il faut bien préciser que la jeune génération sur le continent africain est globalement plus optimiste que la génération d'au-dessus et qu'elle est persuadée, contrairement à d'autres continents, qu'elle aura une vie meilleure que ses parents et que ses grands-parents. Julia Maury, Jonas Parienté, dites-nous pourquoi vous avez moins de 40 ans ou tout juste 30 ans, pourquoi vous vous êtes intéressé finalement à la vieillesse alors que quand même, à l'âge que vous avez, le grand âge est une abstraction pour vous, quand même.
Ben, je trouve qu'à nos âges, en général, on en vient à ce sujet parce qu'on connaît nos grands-parents de plus en plus longtemps. On a la chance de nouer une relation sur 25, 30, peut-être même plus. Une relation qui est très forte. Et donc, on voit nos grands-parents qui passent par... par tout un tas d'étapes. Au début, on les voit comme des vrais personnages, vraiment un peu libérés du regard des autres, un peu décomplexés. Ils nous marquent pour ça. Et puis, petit à petit, il y a des questions qui se posent, comme comment faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls, les questions d'aide à domicile, les questions, après.
C'est sûr que ça ne va pas en s'arrangeant.
Ça ne va pas en s'arrangeant. Et du coup, en fait, encore très jeune, on en vient à se poser tout un tas de questions qu'on ne se serait peut-être pas posées avant parce qu'on ne les aurait tout simplement pas connues.
C'était la même chose pour vous, Jonas Parienté. Vous faites le constat que vous-même, vous vivez tous les uns et les autres avec des grands-parents de plus en plus tard.
Oui, il y a ça, avec de mon côté une question assez identitaire mais qui du coup rejoint ce que disait le jeune homme qui a appelé juste avant. C'est-à-dire que j'avais vraiment une sorte de pulsion de préservation ou d'aller capter en fait ce que mes grands-mères avaient justement amassé comme expérience, comme récit, parce que je me rendais bien compte que c'était assez constitutif de qui je suis et aussi, ça allait nécessairement être constitutif de qui sont mes frères et sœurs et puis plus tard mes enfants.
Et donc, quoi en l'occurrence pour vous alors ? Que vous ne vouliez absolument pas laisser filer.
Avant même le savoir, je crois que c'est vraiment l'histoire, en fait. L'histoire, le parcours.
L'histoire de la famille.
Parce que j'ai des familles, de mes deux côtés, c'est des familles de migrants, quoi, qui sont... mon père est né en Égypte, mes quatre grands-parents sont nés en Égypte ou en Pologne. Et donc, en gros, c'était surtout de savoir, en fait, quelle vie ils ont vécu, quel a été leur parcours, et avec quoi ils sont arrivés en France aussi, puisque il y a plein de choses qui ne sont pas dites, finalement. On les ressent, on les perçoit. Parfois, on les incorpore par la nourriture aussi, mais on ne sait pas les nommer. Et j'avais un peu besoin de les nommer, je crois.
Ouais, alors vous, ça passe par la cuisine, hein, avec ce fameux projet vidéo de transmettre des recettes de cuisine, de filmer des grands-mères, Grand Mass Project, hein, qui cuisinent avec leurs petits-fils, leurs petites-filles. À la une du journal La Croix aujourd'hui, il y a une étude sur les seniors et sur leurs aspirations. Je ne sais pas si vous avez vu. On leur demande à quoi rêvent les plus de 55 ans. Ils répondent à être utiles pour les autres. On leur demande s'ils se sentent heureux. Et là, surprise, plus les Français vieillissent et plus ils se sentent heureux. 78% des personnes interrogées estiment que leurs expériences passées sont une ressource précieuse pour les autres. Ça va un peu à rebours de la relégation des personnes âgées dont on parle beaucoup aussi, non, Julia Maury?
Ben oui, ça va complètement à rebours de tout ce qu'on peut entendre sur la vieillesse. Aujourd'hui, on en parle beaucoup comme de la dépendance, comme un naufrage. Et en fait, dans les faits, nous, tous les vieux qu'on a rencontrés dans le monde et qu'on continue de rencontrer en France, c'est des vieux qui sont heureux, qui sont épanouis, qui créent des projets et qui se sentent utiles. Et dans chaque pays où on est allé, il y avait vraiment, voilà, à chaque fois, ce besoin pour les personnes âgées de se sentir utiles. Mmh. Et donc, ça passait par soit continuer de travailler pour se sentir utile à sa communauté, même quand on a des maladies du type Alzheimer. Quand on était au Japon, on a rencontré des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer et qui, tous les matins, allaient dans un centre où on leur proposait un petit boulot pour se sentir utile à sa communauté. Donc, c'était soit aller laver des voitures au garage Honda du coin, soit aller poster des journaux. Ça passe par le bénévolat aussi. Vous le disiez tout à l'heure, on a rencontré des retraités belges qui aident des migrants à sortir d'un chômage de longue durée. En fait, on voit que le moment de la retraite, c'est pas du tout un retrait de la société, c'est au contraire un moment où on s'engage pour faire des choses qui ont du sens pour nous.
La vieillesse transforme les personnes en personnages. C'est ce que vous dites dans le livre.
Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est en fait, moi, c'est un peu comme Jonas. C'est mes grands-parents qui m'ont vraiment ouvert à la vieillesse. Et en fait, en les regardant, je me suis dit, mais c'est incroyable. Tout ce qu'ils disent, c'est des perles qu'il faut capturer. En fait, plus on vieillit, plus certains côtés de notre personnalité s'accentuent. Que ce soit être un vieux aigri, un vieux con, une grand-mère gâteau, voilà. Quand on vieillit, on devient un vrai personnage et chacun de ces personnages pourrait être les héros d'un film, de roman ou d'un film, d'un roman, d'une série. Voilà.
Alors il y a Lydia, alias Mimi, c'est son surnom. Elle habite où, Mimi?
Alors Mimi, elle habite à Marseille. C'est ma grand-mère et c'est la première personne qu'on a commencé à filmer. C'est un peu le fil rouge du livre.
Et quand vous parlez de perles, effectivement, elle en a pas mal. Voici ce qu'elle dit. Elle dit « J'ai 90 ans, je suis une vieillerie, je ne tiens plus debout quand je marche. On dirait que je suis bourrée. Mais à 70 ans, j'étais dans la fleur de l'âge. Alors, ils ont quel âge, les vieux que vous allez rencontrer dans le reste du monde ?»
Ouais. Ben, elle nous a posé une bonne colle parce qu'on avait commencé à préparer le voyage et on était à 2 semaines du départ. Et Mimi nous dit ben, quel âge ils ont vos vieux en fait. Et on s'est rendu compte avec Clément qu'on avait, à aucun moment mis un âge sur le mot vieux. Et donc on est parti en se disant ben, on va bien voir ce que ça donne. On va peut-être trouver la réponse en voyageant. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse. Parce qu'il y a des pays où on arrivait et on parlait de notre projet. On disait, voilà, nous, on filme des personnes âgées, des anciens. Est-ce que vous en avez à nous présenter? Et parfois, ben, on nous présentait des gens qui ont 55, 60 ans.
Ouais. Les mamies footballeuses en Afrique du Sud, elles ont quel âge?
Alors, les mamies footballeuses en Afrique du Sud, elles ont entre 60 et 80 ans. Voilà, mais dans certains pays, être vieux, comme vous le disiez
tout à l'heure, football,
c'est une fierté. Bah, le football, bah, pour le coup, c'est des vraies héroïnes, ces mamies footballeuses, parce que elles ont toutes leurs...
Elles sont dans le Limpopo, non, si je
dans le Limpopo, ouais, dans le nord de l'Afrique du Sud. Et elles se sont mises au foot parce qu'elles se sont rendues compte que c'est un moyen de plus avoir de douleur, donc de plus avoir d'arthrose, de problèmes de tension. Et puis aussi, c'est un moyen aussi de se retrouver en équipe et de se soutenir, puisqu'elles ont, toutes ben, leurs petits-enfants qui vivent à la maison. Vous savez, en Afrique du Sud, c'est l'un des seuls pays où il y a une pension universelle de à peu près 100 euros par mois. Mmh. Et c'est cette pension, en général, qui sert à faire vivre...
Sur le continent.
Ouais, qui sert à faire vivre toute une famille. Et donc, ben, elles ont énormément de pression aussi. Et donc, le fait de faire du foot, ça les libère. Et c'est vraiment un gros phénomène en Afrique du Sud parce qu'il y a une ligue pour femmes âgées et nous on est super fiers puisqu'on a pu les aider à venir en France en juin dernier et à jouer contre des grand-mères françaises, une équipe de grand-mères françaises qui s'est formée pour l'occasion. Donc c'était marrant.
Filmer ces personnes âgées, Jonas Parianté, c'est aussi une façon de les rendre visibles parce que parfois la société aussi aurait tendance à les rendre invisibles, consciemment ou inconsciemment.
J'imagine, oui. En tout cas, disons que le fait que nous, on s'appuie sur les petits-enfants des grands-mères fait qu'il y a forcément une façon de filmer qui est pleine d'amour et ça rend ces images d'autant plus belles. On va dire qu'il y a une partie au moins de la société qui continue à perpétuer la mode du jeunisme et l'envie d'être beau, d'être jeune et beau éternellement. Et du coup, on a tendance à oublier la beauté de la vieillesse, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel ou autre. Et du coup, d'avoir de jeunes réalisateurs qui filment avec autant de plaisir leur grand-mère, c'est sûr que ça amène des images qu'on a moins l'occasion de voir.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. Qu'est-ce que vous aimez apprendre des personnes âgées? Qu'est-ce que vous avez aussi envie de montrer d'elles? 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
Jonas Parianté, le projet de cuisine des grands-mères qui sont filmées en train de cuisiner, ça s'appelle Grandma Project, une web-série donc pour laquelle, vous le disiez, des réalisateurs filment leur grand-mère au fourneau. On écoute tout de suite un extrait de la recette du soufflé au fromage de Yaya.
Alors je mets du beurre, je ne mets pas de beurre.
Bah si, mais non. Pourquoi t'en mettrais pas?
Parce qu'il est dur comme du bois.
Mais attends, tu veux que je... Mais je vais te le faire, moi.
Non, je vais le faire tout seul.
Ok, fais-le. Je rajoute le poivre.
Au milieu, comme ça, ça révolait.
Et maintenant, la noix de muscade. Allez, j'en mets plus. T'en mettais plein, toi. C'est beau, ma Yayou. On a oublié le fromage, Yayou.
En fait, c'est ça qui me plaît. Avec le soufflé au fromage, je peux raconter les différentes vies de ma grand-mère.
Bravo. Alors, ne remplissez pas votre verre pour qu'on n'en ait plus. Hein.
Pourquoi t'aimais aller à la cuisine?
C'était marrant parce qu'elle mettait mon assiette à côté d'eux, etc. Je mangeais comme ça. J'étais contente d'être avec eux.
Pourquoi quand tu mangeais à table, tu n'avais pas le droit?
Il fallait pas mettre un coude sur la table. C'était interdit. C'est pour ça que j'ai encore mal dans l'épaule. Ma grand-mère a pris mon... Elle était à côté de moi. Mon truc, elle a tapé de toutes ses forces. J'ai hurlé.
Aïe. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait bien se tenir à table.
Il fallait pas mettre ses coudes sur la table.
Oui, mais quoi d'autre? Les dîners, c'était quoi? C'était très...
Voilà,
il y avait plein de manières.
Oui, il y avait la soupe, il y avait un autre plat, il y avait encore un autre plat, puis encore la salade, puis ensuite du fromage, puis ensuite des fruits. Il monte ou pas?
Waouh! Yaya!
Il est super.
On a cartonné. C'est le plus beau qu'on ait fait.
On en prend chacune la moitié.
Et viens, on se dépêche parce qu'il va dégonfler. Ta ta ta. Mayayou.
Ouais.
Tu t'avances?
Ouais, ça va très bien.
Bien?
Oui, je suis très bien.
Yaya vient d'un autre monde. D'un monde très éloigné du monde d'aujourd'hui et du monde dans lequel j'ai moi-même vécu. Mais ça ne nous a jamais empêchés de nous comprendre. En la voyant rire, en la regardant manger son soufflé, en la sachant fière de l'avoir réussi, je me sens moi aussi très fière d'être la petite fille de cette très grande dame.
Le soufflé au fromage de Yaya filmé par...
Chloé Ledoux, sa petite fille.
Sa petite fille,
ouais. Ouais.
Il y en a beaucoup comme ça sur le site.
Là, il y en a 13 et on est en train de lancer une deuxième saison. Donc, on est en plein appel à réalisateurs, réalisatrices. Ça court jusqu'au 5 janvier. Donc, si jamais des gens nous entendent et voudraient participer et faire un film sur leur grand-mère dans le cadre de la deuxième saison, qu'ils n'hésitent pas à candidater sur notre site, grandmasproject.org.
C'est ça, grandmasproject.org. Et ce n'est pas que en langue française?
Ah non, pas du tout. Là, la saison 1, on avait une grand-mère brésilienne, une grand-mère indienne. Enfin, en l'occurrence, on n'a toujours pas de grand-mère africaine, d'Afrique subsaharienne en tout cas, parce qu'on a des grand-mères maghrébines, mais pas d'Afrique subsaharienne. Donc, non, c'est dans toutes les langues. Nous, on s'occupe à la fin de tout traduire, tout sous-titrer et tout, mais ça vient du monde entier. Et je précise qu'on a eu le patronage de l'UNESCO en 2016, parce que ça m'a rendu très fier, donc j'aime bien le rappeler.
Qu'est-ce que ça vous a appris, en dehors des recettes de cuisine.
Qu'est-ce que ça m'a appris, le projet en général ? Ça m'a appris... En fait, disons que j'avais une hypothèse, on va dire, avant de me lancer là-dedans, qui était que, indépendamment des cultures, il y avait quand même un vrai fil rouge et une sorte de racine commune dans toute cette expérience de transmission de cuisine entre ma génération, ou celle de Julia, on va dire, et la génération de nos grands-parents. Et c'est vrai que c'est le cas. En fait, c'est comment dire, pour le coup... on se ressemble tous beaucoup, enfin je veux dire le nom de votre émission est bien trouvé de ce point de vue-là, quoi. C'est, on se ressemble tous beaucoup et finalement cette expérience-là de se transmettre une recette et à travers la transmission de la recette se raconter d'où vient qui on est, en fait elle est la même partout.
Parce que c'est ce que j'allais dire, les recettes, il y en a plein sur internet, hein. Pas besoin d'une grand-mère pour trouver une bonne recette de soufflé au fromage par exemple.
Elles sont quand même meilleures.
Mais en effet, il y a une étude qui a montré il y a quelques années en France que les femmes transmettent davantage la cuisine du quotidien avec des techniques de base, et puis les hommes, eux, transmettent davantage le plaisir de bien manger. C'était une étude très sérieuse. C'est sur votre site, pour l'instant, ce ne sont que des grands-mères. Hein.
Oui, mais c'est vraiment strictement lié à mon expérience personnelle, où il s'avère que c'est mes deux grands-mères qui cuisinaient beaucoup et qu'elles ont vécu plus longtemps que mes grands-pères, donc j'ai eu à la fois l'occasion de les filmer en cuisine et de les interroger, quand mes grands-pères n'étaient plus là, d'une part. Après, pour l'anecdote, ma grand-mère a vraiment transmis le goût de la cuisine, dans le sens de la fabrication, à tous ses petits-fils. On est 5 petits-fils et on adore tous cuisiner, plus que nos chéris habituellement, chéris IES, et elle nous a transmis à la fois le plaisir de manger, mais aussi le plaisir de cuisiner.
Et il y a des plats qui se transmettent de génération en génération, ce qu'on appelle des plats totems dans chaque famille. C'est ce que vous avez constaté aussi à travers ces mini-documentaires.
Oui, absolument. Et c'est un peu l'objet des discussions avec les réalisateurs et les réalisatrices au début, c'est-à-dire d'identifier vraiment la recette qui porte le plus de sens dans le cadre de la relation déjà entre le réalisateur et sa grand-mère, mais aussi dans la famille. Moi, disons que j'avais un peu réfléchi, parce que ma grand-mère qui est égyptienne a 2-3 recettes très très classiques de la cuisine égyptienne, et j'ai fini par en choisir une qui s'appelle la molokhaya, qui est une sorte de ragoût, donc avec cette herbe qu'on trouve du Liban à la Tunisie à peu près, qui s'appelle la corette en français. Et je l'ai choisi à la fois parce que pour moi c'est le plus gros marqueur de notre identité égyptienne, et c'est aussi un plat de fête familiale, quoi. Donc ça pour moi ça incarnait un peu tout ça, et c'est un des moments les plus géniaux en fait, de vraiment avec les réalisateurs et les réalisatrices de trouver cette recette qui raconte le plus de choses. Et j'essaye pour les guider de leur dire, il faut que tu penses que dans ton film la recette c'est vraiment le troisième personnage. Il y a ta grand-mère, il y a toi, puis il y a la recette qui doit jouer un rôle en fait.
C'est ça, un rôle évidemment de bâton de parole aussi. Julia Maury, vous avez eu des expériences de cuisine dans tous les pays que vous avez sillonné, à la rencontre quand même de papy, de mamie un peu différents, pas tout à fait comme les autres.
Ben oui, dans chaque pays on a été invité à manger chez les personnes qu'on allait filmer. Et on s'est rendu compte que souvent le vecteur qui rassemble les générations, c'est la nourriture. J'ai par exemple en tête un lieu de vie en Allemagne, c'est une maison intergénérationnelle où il y a tous les jours 600 personnes qui se réunissent, des enfants, des personnes très âgées, des gens qui ont l'âge de nos parents. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent dans ce lieu c'est parce qu'il y a de la bonne bouffe, qui est pas chère, que l'endroit est beau. Et en fait, ils y vont pas pour se dire, allez, on va faire une petite bonne action intergénérationnelle. Non, ils y vont parce qu'ils ont envie de bien manger. Et puis en fait, ça crée des liens. Ils se retrouvent et puis ils se mettent à parler à leurs voisins.
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous avez la parole aussi, quel que soit votre âge. On se retrouve juste après Flavia Coelho, De Novo.
De novo ele chegou maquiado com batom. Fingi que não vi, minha voz mudou de tom. Ciúme é passado, decidi me mandar. Sem prevenir, saí sem avisar. De um cara imaturo, complicado, complexo. Palavras ao vento, não me interesso. Roda da vida, ele soube um momento. Embaralhar meu pobre pensamento. Procuro a parte que se encaixa. Por que que essa pessoa não me acha? Cadê a minha metade, minha fatia perfeita? A parte que falta pra me completar. De novo, de novo, toma na cabeça assim, de novo, de novo. separo na vida, sempre exagero. Na pole position do poli, poli amor. De nada serve viver sem sentir dor. Faço tudo que for pra ter a felicidade. Rezo, agradeço, é minha prioridade. Entrando na fila dos achados perdidos, dos amores não correspondidos. Procura a parte que se encaixa. Por que que essa pessoa não me acha? Cadê a minha metade, minha fatia perfeita? A parte que falta pra me completar.
C'est Flavia Coelho, de nouveau chez 7 milliards de voisins, sur RFI, on est en direct et on parle des aînés. Que peuvent-ils transmettre? Quel savoir? Quelle présence? On parlait de ce fameux projet Grandmas Project avec vous, Jonas Parienté, donc, qui est finalement, ce sont des jeunes qui filment leurs grands-parents, leur grand-mère en train de cuisiner, de transmettre des recettes de cuisine. Et puis il y a aussi ce fabuleux voyage avec vous, Julia Moury, avec Clément Boxebelt aussi, Oldyssée, un tour du monde de la jeunesse à la rencontre des initiatives qui rapprochent les générations. Vous avez rencontré quand même des vieux sacrément dynamiques dont vous nous parlez. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Mohamed.
Bonjour Manuel.
Mohamed, vous avez 30 ans, vous êtes architecte, vous êtes à Moroni, aux Comores. Et alors, vous vous intéressez aux traditions transmises par les vieux, notamment lors des funérailles, c'est bien ça, Mohamed ?
Oui, c'est bien ça.
Oui, on vous écoute, Mohamed.
En fait, il y en a beaucoup ici à Moroni, au Comores, mais ce qui m'a fait tirer vraiment l'attention, c'est le savoir-faire des aînés, surtout sur le... la perfection Dao.
Le Dao, c'est une sorte de drap, hein, c'est ça qui est fabriqué par de vieilles femmes à partir de feuilles de cocotier et qui va servir à quel moment pour les funérailles?
Oui, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une sorte de drap qui sert à couvrir les morts une fois quelqu'un est mort dans une famille. Mm. On le couvre, on le met dans le cercueil, on l'amène au cimetière. En fait, une fois apporté au cimetière, il y a des gens qui descendent sur la tombe, et une fois entré dans la tombe, on découvre le corps du défunt, mmh. Et on retire les dards, et on met le corps dans la tombe.
Donc on va réutiliser ensuite le Dao pour un autre mort?
Oui, en fait. Parfois, on réutilise le Dao pour un autre mort.
Et ce savoir-faire aujourd'hui, est-ce qu'il se transmet bien?
Oui, il se transmet bien, mais pas vraiment, parce que vous voyez, les gens d'aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup sur ce genre de tradition, vous voyez.
Et pourquoi vous y intéressez, Mohamed, alors que vous n'avez que 30 ans et vous êtes architecte?
En fait, ça m'a impressionné vraiment parce que il commence à se disparaître. Et comme je vais conserver juste les traditions, c'est ça qui m'a attiré vraiment l'attention.
Ouais, vous vous intéressez aussi à la manière dont avaient les anciens de fabriquer avant les sacs plastiques, hein, de fabriquer des sacs autrement également en feuilles de cocotier. Comment ça s'appelle ça chez vous?
C'est Kaya.
Oui. Et dans lesquels on mettait les récoltes, c'est ça?
Oh, c'est une sorte de sac. Mais aujourd'hui, on utilise des sacs en plastique, mais avant... on utilise ce genre de sacs fabriqués à partir de feuilles de cocotier, c'est-à-dire qu'on les confectionne, on apporte au champ et on met les récoltes, soit des manioc, soit des mangues, soit ce genre de sorte de fruits.
Et ça existe encore, ces sacs pour mettre les récoltes en feuilles de cocotier?
Oui, ça existe encore, mais très rarement. Hein. On ne le voit pas partout, on le voit de temps en temps.
Oui, bah moi, à mon avis, je pense qu'il faut les remettre au goût du jour, hein, parce que les sacs plastiques, ça cause comme un petit problème sur la planète. Vous n'êtes pas d'accord, Mohamed?
Oh, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que ça m'a fait vraiment l'attention, parce que avant, il n'y avait pas de ça. Bon.
Très bonne journée à vous. Merci de nous avoir appelé, Mohamed. Je voudrais lire aussi le message de Fatou, qui est à Dakar, qui a 45 ans, qui est enseignante. Et elle nous dit, moi, j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère. J'ai profité de son expérience. Et grâce à elle, je connais bien mon histoire familiale. C'est exactement ce que vous nous disiez aussi, hein, Jonas Parienté. Elle m'a appris la société sénégalaise et elle m'a donné aussi des valeurs. Voilà. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Finalement, aujourd'hui, vous nous avez parlé, Julia Moury, de personnes âgées qui cherchent aussi à continuer à être utiles dans la société, à tenir une place, y compris une place économique, à travailler.
Oui, tout à fait. On allait dans plein de pays où il n'y a pas de retraite. La retraite n'existe pas. Par exemple, dans le sud de l'Inde, on a découvert des initiatives formidables, des personnes âgées qui se regroupent et qui créent des petits business. En fait, ils mettent en commun leurs petites économies. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, les personnes travaillent surtout dans l'économie informelle. Et donc, elles ont une retraite universelle qui équivaut à peu près 13 euros par mois. Et donc, elles mettent leurs petites économies pour essayer de créer des business. C'est très très loin, bien sûr, de ce qu'on peut connaître, mais c'est inspirant de voir que dans le dénuement le plus total, des nouvelles solidarités se créent. Et il faut rappeler quand même qu'en France, il y a pas mal de seniors qui vivent avec des toutes petites retraites. Et donc,
ou simplement le minimum vieillesse, qui est 800 euros, c'est presque rien.
Voilà, et donc ce type d'initiative, même si le contexte est très différent, peut être inspirant.
Ouais, vous êtes aussi, ceci dit, vous êtes allé aux États-Unis. Aux États-Unis, quand même, la situation est assez contrastée parce qu'on voit des personnes âgées qui sont caissiers dans des supermarchés qui ne le font pas par choix réellement.
Oui, on a vu beaucoup de dans des places financières comme les États-Unis ou comme Hong Kong. En fait, on a été frappé de voir que dans des pays très développés, en fait, c'est pas juste en Inde, dans des régions reculées, c'est dans des pays très développés, les inégalités sont très criantes. Et donc à Hong Kong, les personnes qui ramassaient les cartons dans la rue ou qui débarrassaient nos plateaux au food court, c'était que des personnes âgées.
Et qu'est-ce qu'elles disaient sur leur rapport au travail? Est-ce que c'était dur, ne serait-ce que physiquement?
Elles disaient rien, en fait. Elles n'avaient pas envie d'en parler. Alors là, justement, à Hong Kong, on a vu un projet où les jeunes se métamorphosent en fait en personnes âgées. Ils mettent des costumes pour un peu ressentir comment c'est d'être vieux.
Et un costume très lourd,
avec des lunettes effet cataracte. Mais ça existe aussi en France. Mais là, ce qui est vraiment innovant, c'est que après habillés comme ça, ils vont dans la rue et ils vont parler justement à ces chiffonniers et ils vont leur demander combien tu gagnes par jour, comment tu travailles, et ils font les gestes avec eux et ils se rendent compte que pour toute une journée de travail à ramasser des cartons, ils ne gagnent que 2 euros par jour.
Ouais, vous n'avez pas cherché uniquement la vision très glamour de la vieillesse et le côté héroïque des personnages que vous avez rencontrés?
On a quand même essayé de montrer que des solutions. On s'est beaucoup renseigné sur le contexte à chaque fois de chaque pays. On a interrogé des experts. Et on s'est rendu compte aussi que même dans des pays où les seniors vivent dans des situations de grande précarité, il y a toujours des solutions qui émergent et dont on peut s'inspirer en France, même si le contexte est très différent.
Alors on est en ligne avec Jules Mamère Nguessan qui est à Abidjan. Bonjour Jules Mamère Nguessan.
Bonjour madame.
Vous êtes fondateur de Senior Africa, qui est une plateforme au statut d'association, association à but non lucratif, et qui met en relation des entreprises et des seniors à la retraite. Pourquoi vous avez eu envie de faire travailler des personnes qui ont l'âge de la retraite ?
Merci madame. Et merci beaucoup de me donner la parole. C'est un sujet très important, vous savez, l'âge des cas de retraités de la fonction publique. Ce problème qui s'est posé vient d'un constat. Les cadres à la retraite sont des laissés pour compte. Ils accumulent pendant toute la durée de leur vie professionnelle des expériences, des compétences. Et ces compétences ne sont plus utilisées du jour au lendemain. C'est une catastrophe sans nom pour les pays en voie de développement.
Alors, comment ça fonctionne, du coup? On s'inscrit sur la plateforme, il faut un âge minimum, il faut avoir 60 ans, je crois.
Oui, ce sont des seniors. Chez nous, les seniors, nous prenons les seniors à partir de 60 ans.
Et ensuite, vous les mettez en relation en fonction de leur profil avec des entreprises qui recherchent ces compétences-là.
Oui. L'âge de la retraite chez nous est de 60 ans. Notre association ne comprend que les retraités de la fonction publique et du secteur privé. Et nous les mettons en relation avec les cabinets de formation pour que ces personnes puissent transmettre la compétence, l'expérience qu'ils ont accumulée pendant tant d'années de labeur.
Et que disent ces personnes qui se remettent au travail grâce à votre association ?
Ça les valorise, madame.
Vous-même, vous avez 70 ans, je crois, Jules Mamère Nguessan. C'est bien ça,
madame.
Combien ?
J'ai 68 ans.
68 ans, pardon. Pardon. Voilà. Et vous êtes ingénieur civil des ponts et chaussées. Vous travaillez toujours, vous-même ?
Je suis ingénieur civil des ponts et chaussées. Je suis licencié en sciences économiques. Je continue de travailler. Comme vous le savez, madame, les progrès de la médecine ont fait qu'aujourd'hui, à 70 ans, on est encore capable intellectuellement et physiquement de rendre des services à la collectivité.
Et comment vous êtes perçu par les jeunes, monsieur Nguessan ?
Nous n'allons pas sur le même terrain que les jeunes, madame.
C'est-à-dire ?
Ce ne sont pas nos concurrents. Ce ne sont pas nos concurrents, madame. Les jeunes rentrent sur le marché du travail. Nous venons de façon ponctuelle sur le marché du travail. Nous ne sommes pas sur le même créneau. Est-ce que vous voyez ?
On voit très bien. Est-ce que vous voyez aussi, Julia Maury, on n'est pas des concurrents des jeunes sur le marché du travail ?
Les personnes âgées, nous, qu'on a rencontrées dans le monde, elles continuent de travailler. Celles qui continuent de travailler, elles continuent à faire en fait ce qu'elles ont toujours aimé faire. Sans voler, les emplois de quiconque. Ce qui est intéressant dans les projets qu'on a rencontrés où les seniors travaillent, c'est qu'en fait, ils apportent aussi. Parfois des choses que les plus jeunes n'apportent pas. Leurs compétences sont recherchées. On parlait tout à l'heure de Hong Kong. On a rencontré là-bas un restaurant qui n'emploie que des personnes âgées, justement pour les faire sortir de la précarité. Et quand on demandait à la personne au fondateur de cette initiative, il nous expliquait que les personnes âgées, en fait, elles ont une relation avec la clientèle, une façon d'accueillir les clients qui est très, très appréciée et très recherchée.
Jules Mamère Nguessan, votre plateforme, il y a à peu près pas loin de 500 seniors qui sont inscrits, qui sont répartis sur Abidjan, mais vous êtes sollicité, je crois, maintenant pour vous implanter au Bénin, au Togo ?
Oui, les amis togolais et béninois nous ont téléphoné pour dire que le concept que nous développons ici les intéresse et qu'ils souhaiteraient implanter Senior Africa chez eux.
Alors, les compétences qui sont les plus demandées chez les seniors, quelles sont-elles en deux mots ?
c'est la comptabilité, la finance et les ressources humaines. C'est principalement ça. Mais sinon, notre association regroupe en son sein toutes les compétences.
Eh ben merci beaucoup, Jules Mamère-Nguessan, d'avoir été en ligne, en direct d'Abidjan. Longue vie et longue carrière à vous qui travaillez encore. Donc, je crois que vous travaillez dans, vous avez une entreprise dans l'immobilier. Très, très bonne journée à vous à Abidjan. On parlait des solutions par rapport à ce que vous, aux expériences que vous avez vécues, Julia Mouri. Mais je vous pose aussi la question à vous, Jonas Parienté, à travers votre projet Grande Masse Project. Est-ce que vous avez changé de regard sur la vieillesse et est-ce que vous avez le sentiment que dans un pays comme la France aujourd'hui, on est un peu à côté de la plaque? On a eu récemment un grand débat sur le grand âge et sur ces aidants qui sont si mal payés d'ailleurs, pour que ce soit dans les EHPAD, dans les établissements de santé pour ces personnes ou les personnes qui travaillent à domicile pour maintenir ces personnes à domicile. C'est quand même un vrai problème, hein, et un vrai problème politique aussi que ces personnes soit si mal payé. Est-ce que vous avez changé de regard et comment vous percevez ces solutions, Jonas Parienté?
Disons que je vois les choses de deux angles différents. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve la situation globale assez désastreuse. Désastreuse parce que, un peu comme le disait ce monsieur là à l'instant, on se prive de tout un savoir-faire, d'une expérience, etc., qui nous bénéficierait à toute la société. Et puis désastreux aussi parce qu'en fait, on laisse des gens finir leur vie dans des conditions terribles et que, c'est de l'aveuglement à ce stade de laisser autant de nos congénères finir leur vie, c'est-à-dire si, de manière si isolée, de manière si triste.
Julia Mouri,
on se doit plus de dignité. Quoi.
Vous nous parliez de ces solutions, des choses que vous avez vues ailleurs, qui seraient duplicables, qui sont des pistes intéressantes.
Oui, on s'est aussi intéressé au grand âge et on a vu dans plusieurs pays des solutions.
À quoi vous pensez?
Je pense par exemple au Québec, à la maison Carpe Diem, qui est une maison pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et en allant filmer, on s'est dit bon, ça va peut-être pas être la vidéo la plus gaie qu'on va faire, mais on avait beaucoup parlé de cette maison. Et en fait, il y avait une ambiance dans ce lieu qui était vraiment incroyable. Donc c'était une quinzaine de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Et en rentrant dans cette maison, impossible de savoir qui est malade, qui ne l'est pas. Le personnel ne porte pas de blouse, il n'y a pas de code d'entrée sur la porte, donc c'est-à-dire que les personnes peuvent sortir, se balader quand elles le souhaitent, alors qu'on voit aujourd'hui dans les maisons de retraite, les étages Alzheimer, il y a des codes à l'ascenseur et devant aux entrées des résidences. Et puis tout le monde cuisine ensemble, tout le monde fait coupe des légumes, enfin il n'y a pas le même principe de précaution aussi, mais c'est... Voilà, il y a plus de liberté et plus de dignité, en fait, pour ces personnes. Et moi, je vois ma grand-mère Mimi, dont on parle dans le livre...
Il y aurait 5 secondes,
d'accord,
Julia.
Qui est en EHPAD, et c'est vrai qu'elle a dû s'adapter à un système au lieu que le système s'adapte à elle.
Voilà, alors on retrouve tout ça dans Odyssée, un tour du monde de la vieillesse, aux éditions du Seuil. Et Jonas Parienté, un site à retrouver...
grandmassproject.org. Et on serait ravis d'avoir des candidatures d'Afrique subsaharienne pour
Merci
la saison 2.
Merci à tous les deux. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. On parlera des adolescents en déroute ou victimes, racontés par une capitaine de police.